Histoire des lecteurs et des supports de musique enregistrée. Phonautographe, 1857. Il s'agit d'un appareil permettant de transcrire des sons sur un rouleau de papier enduit de noir de fumée. Malheureusement, il ne permettait pas de les relire. Ce n'est qu'en 2008 qu'un groupe de chercheurs arriva à retranscrire un des enregistrements conservés qui n'était autre que « Au clair de la lune », probablement chanté par l'inventeur lui-même. Paléophone, 1877. Le principe de cet appareil est d'utiliser un pavillon pour concentrer les sons vers une membrane qui, par l'action des vibrations, inscrit avec une aiguille un sillon sur le rouleau recouvert d'étain. Si on rembobine le rouleau et que l'on replace l'aiguille dessus, en tournant la manivelle, le son fait le chemin inverse pour sortir par le pavillon. Hélas, le poète hexagonal n'aura pas les moyens financiers de fabriquer son invention qui restera à l'état de brevet. Phonographe, 1877. Après avoir effectué des recherches sur le télégraphe et le téléphone, l'ingénieur américain met au point une machine similaire à celle de Charles Cros. Il remplacera vite les feuilles d'étain par des rouleaux de cire, ce qui permettra en rabotant ceux-ci de les réutiliser. Gramophone, 1887. La principale révolution apportée par l'ingénieur allemand est d'utiliser des disques à la place des rouleaux. Initialement en cire d'abeille sur zinc, puis en gomme-laque ou shellac, une résine issue de la sécrétion d'une cochenille asiatique, il se compose de vinyle à partir de la Seconde Guerre mondiale par pénurie de résine. En plus d'un évident gain de place au rangement, le disque permet une reproduction mécanique industrielle. Cette reproduction mécanique explosera avec l'invention du micro-sillon. C'est l'apparition des 33 tours et des 45 tours. Électrophone, 1926. C'est le premier phonographe entièrement électrique. Utilisant le haut-parleur électrodynamique, c'est cet appareil qui permettra d'écouter de la musique à des niveaux sonores dépassant ceux de l'acoustique naturelle. Magnétophone, 1928. Si cela fait déjà 30 ans que l'on sait enregistrer sur bande de fer, les travaux de cet ingénieur allemand sur l'incrustation de bandes de bronze sur du papier à cigarette l'amènent à mettre au point la bande magnétique. Il utilise une bande de papier ou de plastique très fine qu'il enduit d'oxyde de fer. Magnétocassette, 1961. En plus du gain de place offert par la cassette audio, ce support permet de protéger la bande magnétique avec un boîtier plastique. Réinscriptible, la cassette permet de copier de la musique, ce qui entraînera une levée de bouclier de l'industrie musicale. En effet, les producteurs de disques accuseront ce support de permettre de pirater la musique, tout comme ils s'étaient plaints que la musique soit diffusée gratuitement à la radio plus de 25 ans auparavant. Les évolutions du magnétocassette amèneront son couplage avec un poste radio installable dans une voiture, le radiocassette, ou sa mobilité avec le baladeur. Lecteur CD, 1982. C'est un véritable tournant pour la reproduction de la musique puisque les compact disques, les CD, sont les premiers supports largement commercialisés contenant de la musique en format numérique. La lecture est effectuée par laser, ce qui permet notamment de supprimer les sons parasites présents à la lecture des vinyles, petit craquement ou le souffle. Dématérialisation, MP3. 1995. Ce projet a été initialement développé pour que la radio devienne numérique et libère des fréquences pouvant servir à l'aviation, par exemple. C'est avec l'arrivée d'Internet que le MP3 s'impose. En effet, il prend jusqu'à 10 fois moins de place que le format numérique utilisé pour les CD. Pour gagner de la place, le MP3 supprime des informations qui ne sont pas indispensables à la compréhension du message sonore. Il s'agit bien là d'une perte de qualité.
Plusieurs inventions de lecteurs audio, qu'on appelait avant les machines parlantes, ont été imaginées en France. Cependant, il s'agissait de poètes ou de littéraires qui n'avaient pas l'argent pour industrialiser leurs inventions, contrairement aux Américains ou aux Allemands.
Ce qui a vraiment changé la manière dont j'écoute, ce sont les appareils portatifs et les baladeurs. Avant, j'écoutais de la musique chez moi, en soirée ou chez des amis. À partir du moment où j'ai de la musique dans la poche, je suis forcément tentée d'en écouter plus.
Dès les premiers lecteurs, le besoin de pouvoir déplacer l'appareil se fait sentir. C'est pourquoi Edison sort son Ediphone en 1925, compact et mobile. Cet instrument servira plus à enregistrer la voix que la musique. Les gramophones, eux, vont pouvoir supprimer les pavillons gourmands en place pour utiliser une caisse de résonance placée sous le plateau tournant. Ils peuvent ainsi loger dans une valise. L'électrophone fera de même. C'est l'invention du célèbre Tepaz qui marquera la jeunesse des années 60. Les magnétophones auront aussi une version portable. Nous pouvons noter dans les années 70-80 le phénomène de mode autour du Ghetto Blaster, lecteur de cassettes imposant qui permettait des volumes sonores plus importants que les lecteurs portatifs de vinyle. On cherche avec l'utilisation de cet appareil à se démarquer par une musique, une culture. C'est aujourd'hui encore un symbole du mouvement hip-hop.
On a miniaturisé les lecteurs et les supports musicaux avant de les faire disparaître. On peut comparer ce que représentent 15 heures de musique en vinyle, en cassette et en CD. On se doute bien qu'il était difficile d'avoir sur soi 15 cassettes en plus de son baladeur. Aujourd'hui, un téléphone connecté à Internet nous met à disposition toute la musique du monde. Comme j'ai plus de titres à ma disposition, je vais écouter plus longtemps. Mais attention, si j'augmente mon temps d'écoute, il faut que je baisse le volume pour ne pas dépasser la dose de son acceptable. À chaque niveau sonore correspond une durée maximum d'écoute. Par exemple, à pleine puissance, un baladeur développe jusqu'à 100 décibels, soit le niveau d'un marteau-piqueur. Ce volume n'est acceptable que 15 minutes par jour, et seulement si je ne m'expose qu'à ce son-là. Donc pas de téléphone, pas d'école ou pas de transport en commun.